Bon, ben parlons justement du virus. D'abord, pour vous dire qu'il y aura une conférence sur la COVID ce jeudi 23 avril. Le public pourra poser des questions en direct. Et je reçois une des personnes donc qui va être là pour cet événement, qui s'appelle Nathalie Granvaux, qui est professeure en biochimie à l'Université de Montréal, chercheuse au Centre de recherche du CHUM. Et également, elle co-dirige le réseau québécois COVID, qui vise à coordonner des efforts de recherche dans le cadre de la pandémie. Madame Granvaux, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, la première question que j'ai envie de vous poser ce matin, quand vous regardez les chiffres, quand vous regardez la situation québécoise, est-ce que vous croyez qu'on a atteint le pic actuellement? Est-ce que, même si les cas sont toujours d'une tristesse, les cas de décès, d'hospitalisation aux soins intensifs, quelle est votre lecture à vous?
Écoutez, pour le moment, on se rend compte, en fait, en regardant les chiffres, qu'on a atteint ce qu'on pourrait plutôt appeler un plateau plutôt qu'un pic. Donc ça, c'était un petit peu le but qu'on avait finalement quand on demandait d'aplatir la courbe au tout début. Là, donc, au lieu d'avoir une montagne avec un pic très marqué, on a diminué la hauteur de la courbe et on l'a étendue. En fait, elle est plus longue. Donc, la question qu'on a maintenant, je pense que avec les chiffres qu'on a des derniers jours, on semble avoir atteint ce plateau-là. Mais combien de temps le plateau va durer? C'est toute là la question qui va falloir voir les prochaines semaines et qui va être déterminante pour la situation ici.
Parlons des CHSLD. Comment on peut endiguer, avec tous ces foyers d'éclosion, ces gens extrêmement vulnérables, c'est quoi la recette pour tenter de limiter les dégâts?
Mais écoutez, si on connaissait la recette, ouais. Je pense qu'on serait tous très, très heureux aujourd'hui de pouvoir informer clairement notre système de santé pour comment on pourrait limiter l'infection au point où elle est rendue. Je pense que toutes les mécanismes qui sont mis en place de protection des employés et s'ils sont suivis de manière très stricte, en fait, pour protéger le personnel et protéger les patients qui sont pas encore infectés, je pense que ça reste les solutions qu'on connaît, protection avec les masques, les visières et puis tout ce qu'on a déjà mentionné depuis des semaines. Mais on n'a pas de recette, malheureusement, miracle qui est apparue les derniers jours, non.
Qu'est-ce que vous pouvez...
Oui. Non, mais ce que j'aurais ajouté, en fait, c'est que la recette serait qu'on arrive à trouver un médicament qui aide les patients et qui pourrait, en fait, diminuer l'intensité des symptômes. Ça serait vraiment, je pense, à la situation où on est aujourd'hui, quelque chose qui pourrait aider beaucoup.
Bon, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la recherche, autant donc de médicaments, de traitements que de vaccins? Est-ce que il y a des pistes qui semblent plus prometteuses que d'autres?
Mais écoutez, si on part tout de suite sur le vaccin, il y a beaucoup de tests qui sont faits actuellement. Je pense qu'il y en a proche d'une quarantaine des 7 vaccins qui ont déjà démarré. Mais on sait que ça va venir à long terme. On s'entend que développer un vaccin et arriver à un produit qu'on a confiance à injecter à des gens, ça va prendre un minimum de 18 mois à 2 ans. Puis c'est un gros minimum. Par contre, il y a tout un aspect de recherche qui se développe aussi, qui est d'utiliser des médicaments qui, pour souvent, sont utilisés dans d'autres maladies pour soigner d'autres pathologies et essayer de voir si on pourrait les utiliser pour améliorer les symptômes de la COVID-19, en fait. Donc, en fait, c'est un petit peu de recycler des molécules qui sont déjà connues et déjà approuvées pour d'autres indications. On a une molécule sur lesquelles il y a des choses qui avancent quand même beaucoup, qui avait été, en fait, mise au point contre l'Ebola, le remdesivir, et qui donne, les premiers résultats sont assez encourageants et on espère, en fait, que ça va continuer et que les essais sur les patients vont confirmer que ça peut aider les patients à très court terme.
Bon, parlons de déconfinement parce que c'est un sujet évidemment important. Au Québec, on parlait des écoles tantôt. Comment ça peut se faire dans le monde scolaire? Parce que, bon, il y a des raisons pédagogiques de le faire. Il y a des enfants aussi qui doivent être sortis d'un milieu familial qui est potentiellement toxique, pour ne pas dire violent. Mais comment on peut retourner progressivement des enfants vers une vie à l'école?
Ce qui selon moi, pour l'aspect science de la ouais. compréhension de la propagation du virus, ce dont il faut prendre conscience, c'est que la majorité de la population, et les chiffres commencent à le confirmer, notamment au niveau de l'OMS hier, que la majorité de la population n'a pas encore vu le virus. Donc, on n'a pas développé ce qu'on appelle l'immunité de groupe de manière très forte pour le moment. Donc, en recommençant la vie, et notamment en envoyant les enfants à l'école, ce qui est un début quelque part nécessaire, je vous entendais parler tantôt du fait que si on veut retourner les gens au travail, ben, il faut que quelqu'un s'occupe des enfants, on s'entend. Ouais. Mais il faut prendre conscience que les enfants, comme toute autre personne asymptomatique, peut être un vecteur. Donc, il faut réorganiser notre vie de manière à prendre conscience que le virus va continuer de se propager, que l'immunité de groupe va continuer de se développer et qu'on va avoir des personnes encore qui vont avoir des symptômes sévères et dont il va falloir s'occuper. Donc, il faut arriver à trouver un équilibre dans ça. Puis ça, là, ça revient à la santé publique qui va déterminer comment on peut gérer ça, mais en gardant à l'esprit que ce virus cela a de multiples symptômes, dont des personnes asymptomatiques et qui servent de vecteurs, en fait.
Et le virus ne va pas disparaître en mai, en juin, en septembre, en octobre?
On ne connaît pas l'effet des saisons sur ce virus en particulier. On le sait, par exemple, pour un virus contre la grippe qui revient, qui est saisonnier, ou le virus respiratoire syncytial qui est saisonnier aussi. Pour le SARS-CoV-2, on n'a pas encore les informations de savoir comment les saisons influent sur sa propagation. S'il continue tout l'été, ben on va continuer à développer ça. Si c'est un virus qui devient saisonnier, ben il risque de disparaître. Et là, le risque, c'est que tout le monde se sente protégés, qu'on a fini avec cette histoire-là et puis qu'ils reviennent à l'automne. Ce qui serait dangereux un petit peu qu'ils reviennent à l'automne, c'est que à l'automne, la grippe et le virus respiratoire syncytial qui circulent d'habitude sont des virus qui vont revenir en même temps probablement. Et là, notre système de santé va être submergé avec 3 virus au lieu d'un. Donc, tout ça est un équilibre à trouver et on n'a pas vraiment la réponse de quelle est la meilleure solution.
Merci beaucoup, Mme Granvaux. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Nathalie Granvaux est professeure en biochimie à l'Université de Montréal et co-dirige le réseau québécois COVID qui vise à coordonner les efforts de la recherche, évidemment, dans le cadre de cette pandémie.